Avant de lancer la deuxième session, Denis Barranger me disait qu'il avait eu deux choses à dire qui lui semblaient directement en rapport avec les débats précédents. Et par conséquent, on va l'écouter avant de passer à la deuxième partie du débat.
Oui, pardon, c'est peut-être un peu malvenu de reprendre la parole après avoir clos le précédent séminaire.
Voire assassiné la précédente session.
Non, mais justement pas, mais c'était un peu ça qui me dérangeait. Armel a raison de moquer un petit peu ma tendance à dire que je persiste à penser que les droits de l'homme, c'est pas des normes, ça ne se traite pas à un traitement normatif, bien au contraire, ça a été conçu par les grands anciens pour échapper au raisonnement normatif, par exemple pour ne pas être créé et pour ne pas pouvoir être supprimé, et les juges en font usage. Dernier exemple, ce que j'appelle le vocabulaire essentialiste. Les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, c'est très intéressant. Ça s'est retranscrit dans la manière d'écrire la Constitution, puisque maintenant vous avez les conditions essentielles d'exercice des libertés publiques dans les articles 72-3, je crois, enfin, dans les alentours de ça, dans 72-3 et 73, je crois, dans la Constitution. Tout ça est intéressant et pour tout ça, nous n'avons pas le bon vocabulaire. Il y a un travail théorique à faire en contentieux constitutionnel. Et deuxième chose, c'est une de mes suggestions que mes camarades peuvent juger un peu délirante pour le projet ANR, je pense qu'il faut faire une théorie de l'agir constitutionnel. C'est-à-dire là où je comprends extrêmement bien ce que dit Jean-Marie Danquin et j'y adhère pleinement, j'ai une petite réserve de pensée qui est que je ne crois vraiment pas qu'il y a de la politique pure, je crois vraiment pas qu'il y a des moments où le droit n'a rien à dire et n'a pas de capacité de dire quelque chose sur le fonctionnement politique. Dès qu'on dit que le président de la République a fait ceci, on est déjà dans le cadre de la force normative du droit constitutionnel, puisqu'on appelle ce monsieur le président de la République plutôt qu'autre chose.
Oui, c'est vrai que d'autres titres seraient plus adéquats.
Voilà, et puis...
J'en ai proposé quelques-uns d'ailleurs dans mon article.
Nous en avons tous à l'esprit. Voilà, il y a une théorie de l'agir constitutionnel à faire qui permettrait de ressaisir ce qui se passe institutionnellement pour que le droit à nouveau ait quelque chose à en dire. Ça, je pense que là, je ne sais pas si on fait nous de la doctrine, j'imagine que on serait bien les seuls à le penser, mais c'est le rôle constructif qu'on peut avoir de repenser les choses en disant qu'il y a une action constitutionnelle. J'entendais un de mes éminents collègues parler tout à l'heure, c'est toi qui parlais des organes constitutionnels. En France, on pense qu'il y a des organes constitutionnels, aux États-Unis, on pense qu'il y a des offices de la Constitution. Ça n'est pas pareil, ce sont des doctrines de l'agir constitutionnel qui sont différentes. Et quand on considère que le président des États-Unis a un devoir moral de se comporter de telle et telle manière et qu'il y a un retentissement de cette conception de devoir moral comme étant lié à son office sur le régime institutionnel que la Constitution attache à ses comportements, c'est une doctrine de l'agir constitutionnel qui est différente de celle du président de la République en France et au fond de cette influence des catégories allemandes sur nos modes de pensée. Ça, c'était mon premier point. Donc au fond, je fais un peu toujours dans l'apocalyptique, mais j'aimerais aussi qu'apocalyptique veuille dire révélation, comme chacun sait. Deuxième chose, j'ai été très frappé par ce qu'a dit Jean-Marie Danquin sur la coutume qui sert parfois à ne pas appliquer la règle générale et à faire prévaloir le fait individuel sur la règle générale. J'avais placé parmi mes suggestions de lecture pour ce séminaire, qui ont été poliment et adéquatement relayées par notre directeur de projet dans la rubrique à ne pas lire et qu'on ne vous photocopiera pas, de très intéressantes conclusions de M. Rémi Keller, maître d'Erquette au Conseil d'État, dans une affaire de 2006 qui portait sur la portée des lois d'habilitation dans le cadre du régime de l'article 38 de la Constitution. Il s'agissait de savoir si une habilitation qui avait été donnée au gouvernement de M. Jean-Pierre réglementé, à lui moins qu'à un autre, peut-être ce vocabulaire s'applique-t-il, celui de M. Dominique de Villepin. Est-ce que quand il y a une habilitation qui est donnée par le Parlement au gouvernement de M. Raffarin, cette habilitation peut être utilisée par le gouvernement de M. de Villepin en vue d'adopter des ordonnances? Et l'idée, à un moment de son raisonnement, qui est vraiment excellent, qui est très intéressant et assez cultivé, le commissaire du gouvernement, je crois que c'était encore à l'époque, un commissaire du gouvernement, dit En gros, je résume, il y a un argument qui est que c'est une confiance personnelle qui a été donnée quand il y a eu l'habilitation. Moi, je vous dis de n'en rien faire et je vous dis de considérer que validement des ordonnances, qui comme chacun sait, restent des actes administratifs tant que. Que ces ordonnances ont été validement adoptées sur la base d'une loi d'habilitation qui avait été donnée à un autre Premier ministre. Et pour justifier ça, il dit une chose assez amusante, et là je reprends, je trouve que ça tombe exactement, ça se subsume exactement sous la définition qu'a donnée Jean-Marie Danquin. Il dit, en gros, je ne vous propose pas exactement d'appeler ça une coutume constitutionnelle au sens strict du terme, mais enfin quand même, parce que c'est le moyen qu'on a de renverser le poids assez lourd de tous les arguments en sens contraire. Il dit c'est pas du praeter, c'est pas contra legem, c'est praeter legem. Enfin, et en gros, je vais pas appeler ça de la coutume parce que ça ne se fait plus, mais c'est exactement ça que je vous propose. Je vous propose de renverser tout ce qui plaide pour le constat de l'illégalité de l'ordonnance adoptée par le second gouvernement, celui qui n'avait pas été individuellement habilité. Je vous propose quand même de maintenir ça, de la déclarer légale. C'est extrêmement intéressant, c'est exactement ce que vous dites, c'est exactement le phénomène que vous décrivez, et c'est l'illustration d'un moment où on utilise cette catégorie de la coutume pour opérer une mutation du droit constitutionnel français contemporain vers le déclin de l'idée de responsabilité personnelle et donc vers une interprétation institutionnelle de l'article 38 de la Constitution. Il y a de la confiance dans l'article 38, il n'y a pas que dans l'article 49 qu'il y a de la confiance, vous avez gagné le rapport de confiance qui est au fondement du régime parlementaire se manifeste aussi par les lois d'habilitation. Non, c'est pas pratique, ça nous arrange pas, les modes de production normative qui sont les nôtres en 2006 ne se plient plus à ces relations interpersonnelles. Moi je vous propose de dire que toute habilitation est valable pour tout Premier ministre, même quand c'est pas l'individu qui a obtenu cette habilitation, et je vous propose pour ça d'appeler ça une coutume constitutionnelle. Ça me semble rentrer sur la description que vous en donniez.
Justement, sur ce point, ça prouve que s'il avait eu autre chose que favoreux, il aurait eu un autre argument, beaucoup plus pertinent, qui est que quand on a voulu donner une habilitation à un gouvernement nommément désigné, en juin 1958, on l'a donné au gouvernement investi à une date précise, et pas au gouvernement tout court. Donc, à contrario, on pouvait en tirer la conclusion qu'un gouvernement... quand on s'était donné au gouvernement, ça n'était pas une confiance personnelle, mais une confiance dans l'organe.
Quand je faisais des TD de droit administratif, j'expliquais à mes étudiants qu'il y avait 5 critères de l'établissement du rang public administratif. Et que il y en avait un 6e qui était que c'était le Conseil d'État qui décidait.
Oui.
Et là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai dit que c'était un homme cultivé, donc il a eu des lectures dépassant celles que vous évoquiez. Mais au fond, ça, c'est pas très grave. On va décider de manière relativement discrétionnaire qu'on fait autrement. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est la position du label coutume sur ce procédé assez décisionniste.
En fait, on n'a pas besoin d'un argument juridique, c'est ça. On dit c'est mieux comme ça.
Les constitutions deviennent ce qu'en font les nations, a dit Malraux. Je cite.
Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on passe à notre deuxième session, parce que nous sommes vraiment en train de prendre pas mal de retard. On pourra, dans le cours de cette deuxième session d'ailleurs, réintroduire, et éventuellement, on le fera certainement, des questions qui se sont posées au cours de la première. Je suis frappé du fait que finalement, ce qui apparaissait très largement consensuel lors du séminaire précédent tente à quand même se subdiviser pas mal aujourd'hui en interprétations concurrentes, voire opposées. C'est d'ailleurs tout à fait normal. Je ne me hasarderai pas donc à essayer de faire à resynthétiser tout cela, puisque j'ai été moi-même le fauteur de synthèse en premier ressort. Il me semble clair qu'on aborde en tout cas des débats qui, me semble-t-il, débouchent sur deux ordres de réticences assez différents. Il y a des réticences en termes de limites disciplinaires, c'est une chose, quel est le territoire mutuel des juristes, des sociologues, etc. Et puis il y a des réticences aussi plus fondamentale, plus brûlante, disons, l'objection d'Anquin, si j'ose dire, sur parfois l'hétérogénéité radicale entre le droit et le fait. Et là-dessus, nous avons des divergences, et c'est tout à fait normal. Alors, étant donné donc manifestement des une vraie divergence d'approche existe, je vous propose de passer à quelque chose de plus, à des exemples plus précis et qui sont, me semble-t-il, hautement problématiques sur les grands conflits constitutionnels français et sur la place qu'il faut accorder à des interprétations de la Constitution, Constitution Grévy, Constitution gaullienne, en gros pour le dire vite, dans un contexte où on a, par rapport à l'exemple anglais, une difficulté fondamentale à trouver des consensus durables. Et où, finalement, c'est un peu la crise constitutionnelle permanente pendant très longtemps, par effet induit du traumatisme révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et est-ce qu'on doit, et dans quelle mesure, considérer qu'il y a une valeur juridique dans la Constitution Grévy, il y a ou pas une valeur juridique dans le présidentialisme français? Ce sont des questions qui sont délicates, qui sont également assez polémiques, puisqu'on voit bien que ça aurait directement des conséquences sur l'appréciation qu'on peut avoir du fonctionnement actuel de la Constitution de la Ve République que de reconnaître une valeur à la responsabilité que le Premier ministre pratique face au président. Là-dessus, est-ce que on peut parvenir à, sinon une convergence des analyses, du moins à des raisonnements communs, sachant que, me semble-t-il, ça pose aussi la question, indépendamment de savoir si on trouve que le présidentialisme français c'est scandaleux et donc on ne peut quand même pas reconnaître une valeur juridique n'importe comment. Je caricature un peu, mais au-delà de ces questions de divergence, il y a aussi une question de fond qui a été un peu abordée lors du séminaire précédent, mais qu'on n'a pas vraiment approfondi, sur si on est d'accord sur le fait qu'il peut se former du droit à partir de prétentions qui, au départ, ne sont pas nécessairement, sont peut-être extrêmement politiques et très politisées. Comment faut-il l'interpréter? Est-ce qu'il faut adopter une conception décisionniste de la formation de ce type de droit, ou est-ce qu'il faut au contraire adopter une conception consensualiste? Ce serait par la reconnaissance mutuelle par les acteurs constitutionnels au sens étroit ou au sens large d'ailleurs, pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure, c'est pas forcément que les organes de la Constitution, ce serait par la reconnaissance mutuelle que se ferait éventuellement le droit et que ce qui était puissance au départ deviendrait in fine du droit, ou pas, ne le deviendrait jamais si les divergences se prolongent, ou bien est-ce qu'au contraire il y a des cas de figure, et si oui, à quelles conditions dans lesquelles on peut considérer que c'est de façon plus schmittienne une décision qui a tranché une controverse et qui a consacré à une victoire politique un droit nouveau. Il me semble que c'est un peu ce débat théorique de fond qui transparaît en filigrane à travers les controverses qu'on pourrait avoir sur ces conflits constitutionnels français, et que peut-être d'ailleurs ces deux conceptions ne sont pas nécessairement mutuellement incompatibles. Je ne développerai pas, comme je l'avais fait dans le papier de synthèse, je ne veux pas parler trop longtemps, mais il y a peut-être une place pour ces deux conceptions, tout simplement selon que les parties en présence acceptent ou pas le principe selon lequel un arbitre, qu'elles reconnaissent mutuellement, tranche leur conflit mutuel, auquel cas ça peut donner du décisionnisme, mais pas de la souveraineté au sens où le souverain ne s'autoproclame pas, il est simplement constitué comme tel par les parties, ou bien ne pas donner de décisionnisme si le conflit est tel qu'il persiste entre deux interprétations et qu'on ne reconnaît personne comme étant susceptible de le trancher, alors on resterait dans l'hypothèse d'une crise qui ne pourrait se résoudre que par l'instauration progressive d'un consensus. Voilà les deux grandes pistes que je voulais lancer pour cette petite deuxième session, et on va immédiatement passer au débat. Armel,
ça me permet de préciser
de faire l'intervention. Ah,
non, j'y renonce, je te rassure. Mais c'est au cœur d'une chose qui me préoccupe, et je ne sais pas pour le coup si on va être d'accord, probablement pas. Est-ce qu'on peut reconnaître une valeur juridique à la Constitution Grévy, nous dis-tu, ou bien à la Constitution gaullienne, en quelque sorte? Pour moi, c'est l'exemple le débat me paraît un peu mal posé, parce que précisément, je ne crois pas qu'on puisse présenter les choses exactement dans ces termes-là, la valeur juridique à ce que moi j'appellerais un système de gouvernement donné. ici, celui de la France après 1877 ou à la France après 1962, si on veut. Je pense qu'on assimile, là encore une fois, les règles juridiques qui n'existent pas per se, qui doivent être interprétées, appliquées, concrétisées dans certains cas. Et puis ensuite, il y a l'effet de système, il y a l'équilibre général du système qui, lui, évidemment, n'est pas que juridique. Donc on ne peut pas, à mon avis, de mon point de vue, se poser exactement la question en ces termes-là, parce qu'il est évident qu'un système de gouvernement ne repose pas que sur des normes. Il est structuré en partie par des normes, pour moi plutôt des normes cadres, ou un ensemble qui fait un cadre plus ou moins contraignant, plus ou moins déterminé, avec plus ou moins de contraintes pour les acteurs, bien sûr. Mais évidemment, la détermination positive, elle n'existe jamais par les seules normes, pas plus d'ailleurs que des normes juridiques, que ce qu'on pourrait appeler des normes purement politiques, parce que je crois qu'il y a en fait tout un dégradé de... J'allais dire de normes, mais justement, je ne voudrais pas peut-être... De normes et de peut-être de principes ou de contraintes dans lesquelles je ne mets pas que du droit. Et c'est en cela que, pour moi, la notion de droit politique est non problématique de ce point de vue-là, car effectivement, elle est elle est mixte. De ce point de vue-là, quand Denis Barranger a un appel à une théorie de l'agir constitutionnel, probablement, ne comprends-je pas tout à fait, ou ne comprenons-nous pas tout à fait les mêmes choses là-dedans, mais ça va dans le sens de ce que je crois, c'est qu'il faut préciser, pour comprendre un système de gouvernement donné, mettons la France de la Ve République depuis 60 ans, le dégrader de ce qui est le droit de la Constitution, de ce que sont des règles peut-être non écrites et plus de nature mixte, ou pas seulement juridique, et puis des pratiques ou des agencements qui sont contraignants pour les acteurs, mais qui ne sont pas effectivement du droit strict ou non strict d'ailleurs. Et ça, il faut que notre théorie, nos théories constitutionnelles soient capables d'inventer une manière intelligente de parler donc de cet agir constitutionnel dans lequel le droit n'est qu'un élément, et le droit avec différents degrés, un droit strict et puis un droit qui est plus de l'ordre de la convention, si on veut encore garder une place, mais il n'y a pas que des problèmes les plus brûlants qui ont été évoqués. Je crois qu'il y a d'autres sujets sur lesquels le terme de convention peut être tout à fait appliqué de manière non problématique. Donc, encore une fois, moi je plaide plutôt pour une distinction un petit peu plus rigoureuse entre les ordres de problèmes ou d'ordres de discours qu'on tient, en distinguant dans le composé constitution au sens large, ce qui relève du droit de la Constitution et de ce qui permet de construire un système de gouvernement qui, lui, ou qu'on pourrait dire aussi la Constitution réelle. Et si Jean-Marie Danquin, qui serait le meilleur pour le faire, n'a pas été capable d'écrire ce qu'est la vraie Constitution française, c'est en effet, comme il l'a dit, parce que c'est impossible, parce qu'on ne peut pas tout ramener à une norme ponctuelle, ce qui n'est qu'en fait une habilitation générale, la compétence d'un organe ou un ensemble de compétences produit des déterminations positives dans les comportements qui varient aussi, ne serait-ce que selon les personnalités, selon les conjonctures. Donc en fait, on a un effort d'invention des composants de cet ordre constitutionnel dans ce qu'il est positif, quand on essaie de déterminer un peu plus près de ce qui fonctionne réellement. Et ça, c'est un travail où les juristes doivent avoir leur part entière, et ça fait appel à des qualités qui sont peut-être là où les juristes peuvent travailler aussi avec d'autres.
Mais alors, question dans ce cas-là, est-ce que tu diras que la Constitution de Grévy, c'est pas du tout du droit, ou que c'est un peu du droit, mais pas seulement, ou que c'est ni du droit, ni de la politique, ni autre chose, et sinon quoi? Enfin, comment tu places le curseur?
C'est du droit en ce sens qu'elle est encadrée par des normes juridiques, par des interprétations de normes juridiques et par des pratiques politiques. Donc oui, c'est du droit, mais c'est du droit politique, mais ça n'est pas que du droit. Et en effet, pour moi, c'est un certain équilibre obtenu dans un cadre qui, lui, est largement partie formé d'un ordre cadre normatif. C'est un équilibre obtenu par un ensemble de décisions convergentes et de consensus, parce que, contrairement à ce que tu laisses entendre, il y a quand même un certain consensus dominant qui a permis à cette Constitution de Grévy de durer jusqu'en 40, même s'il y a eu des opposants, mais globalement, le consensus l'a emporté, surtout après 1914. Et donc, évidemment, qu'on est dans quelque chose qui concerne les juristes, qui n'est pas de la pure politique. On a atteint un certain équilibre, un agencement contraignant dans lequel le consensus a fini par l'emporter. Il n'a pas été remis en cause.
C'est ni du droit ni pas du droit, c'est un peu des deux.
Oui, il faudrait le dire plus élégamment, mais oui, bien sûr. Mais
c'est de la politique avec des vrais morceaux de droit dedans, ou l'inverse, si je comprends.
Mais as-tu l'illusion qu'on peut faire quelque chose de purement juridique, ou qu'il faille faire quelque chose de purement politique? Non, bien sûr. Donc forcément que c'est un peu des deux. ce qui nous reste à inventer, ce sont des articulations un peu fines.
La question, c'est celle de la valeur. Est-ce qu'il y a une valeur ou est-ce qu'il n'y en a pas?
Mais à quoi?
Si oui, laquelle?
Tu veux reconnaître une valeur juridique, un équilibre général?
Je peux. J'ai déjà beaucoup parlé.
Pardon, Tristan Poutier avait demandé la parole, donc j'allais lui donner, et après Jean-Marie Gantin.
Très exactement sur la question de cette échelle de juridicité ou de caractère politique, est-ce qu'il n'y a pas moyen de la déterminer en renversant complètement l'approche du professeur Gantin, c'est-à-dire en supposant que toute proposition, je ne sais plus quel était le terme, toute prétention, exactement, toute prétention constitutionnelle à l'époque moderne, aspire à se traduire en normes écrites, et à partir de là, on regarde quelles sont les raisons pour lesquelles elle ne se traduit pas en normes écrites. Et là, à partir des raisons qui sont avancées pour ne pas traduire en normes écrites, on pourra évaluer en quelque sorte le caractère précisément juridique ou moins juridique de cette non-positivité, non-traduction en règles écrites. Je pense à deux choses. Par exemple, sur le caractère présidentialiste de la Constitution de la Ve, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit que c'était le président de la République qui, je ne sais plus quoi, définissait la politique de la nation? Là, en termes juridiques, ça peut être quand même très bien défendu si on fait référence à la possibilité de la cohabitation, etc. Ce sont des arguments juridiques qui sont quand même assez profondément juridiques. Un degré en dessous, on pourrait invoquer la rigidité constitutionnelle, parce qu'après tout, une constitution, ça ne s'agisse pas tout. Comme on souhaite, et on peut aussi invoquer ça. Vous voyez, il pourrait y avoir un dégradé de raison qui empêche la traduction écrite.
Je peux répondre à une objection courte. C'est pourquoi voulez-vous aussi qu'on mette tout par écrit? C'est-à-dire, il n'y a pas de raison de tout mettre par écrit, parce que sinon, il faudrait tout le temps prévoir des exceptions. Sur ce plan-là, où là, on n'est pas seulement dans l'application d'une compétence juridique, on est aussi dans la question d'un équilibre. Et l'équilibre, il ne résulte pas de l'exercice d'une seule compétence par un organe sur un statut privilégié, mettons le président français, mais aussi d'un effet de système. Le système de gouvernement, c'est bien parce que c'est un mélange de plusieurs choses. C'est l'ensemble qui permet d'obtenir cet équilibre-là. Et là, je suis assez d'accord sur l'idée qu'on peut reprendre l'histoire des échelles, etc. C'est plutôt mon propos. Mais l'idée de fixer ça par écrit, ça n'a pas de sens, puisque même le système de gouvernement à l'anglaise, qui est relativement consensuel, ou le système du chancelier en Allemagne, il faudrait un long livre pour l'expliciter, et encore ça changerait selon les époques. Et là, on n'est plus dans l'ordre d'une normativité purement juridique, disons. On est encore dans le cadre. Il ne faut pas confondre, je crois, l'aspect justement cadre et habilitation, et puis la détermination positive des comportements qui, par définition, est variable selon les époques, et même tous les premiers ministres anglais ont été forts depuis des décennies, et pourtant il y a des nuances sur les uns et les autres.
Jean-Marie.
Alors, un mot bref sur ce que dit M. Poutier. L'exemple de l'article 20, du premier alinéa de l'article 20 sur l'impossibilité d'écrire est très pertinent. Et il faut remarquer à quel point c'est paradoxal, parce qu'on a dit on ne peut pas écrire ce qui se passe tout le temps, parce que ça poserait un problème au cas où il y aurait une exception potentielle. Bon, c'est hallucinant comme mode de raisonnement. Bon. Je laisse ceci de côté, je reviens simplement sur ce qu'on disait avant, je vais dire quelque chose de très, très rapide, mais je suis à peu près entièrement d'accord avec ce qu'a dit Armel de Divelet. Je crois qu'il faut procéder au cas par cas. Il faut prendre les différents événements dont on a dit que ça pouvait être des conventions de la Constitution, des coutumes, etc., pour voir si ça colle ou pas et pour voir les rapports qu'il y a entre eux. Et de ce point de vue-là, il me semble que la situation sur la Ve République est très différente de la situation sur la Troisième. Bon, d'abord, il faut se souvenir que Constitution Grévy n'est pas une expression du temps. C'est une expression qui a été inventée par Marcel Prévost. Bon, donc c'est rétrospectif. Ceci est important, parce que rétrospectivement, c'est une constitution. Pour les contemporains, c'est rien. C'est la nature des choses. Ensuite, de quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement de l'impossibilité de dissoudre le Parlement. Or, deux remarques. D'abord, la dissolution, c'est une loi d'habilitation. Alors, je ne vais pas me substituer à Guillaume Tissot, mais une loi d'habilitation, c'est du domaine de la contingence. C'est ce qui n'est ni nécessaire, ni interdit. Rien ne disait dans la constitution de la Troisième République qu'on devait tout le temps dissoudre le Parlement, et ni qu'on devait le dissoudre dans certains cas. On le dissolvait si on voulait. Par conséquent, ne le dissolvant pas, on ne sort pas des lois de 1875. Deuxièmement, en ce qui concerne la dissolution du Parlement, il fallait l'autorisation du Sénat. Personne ne le dit jamais, mais c'est quand même décisif. Tout le monde sait que le Sénat, à partir d'un certain moment, n'acceptera plus jamais, pour des raisons politiques et pas pour des raisons corporatives, n'acceptera plus jamais de dissoudre le Parlement. Donc les conditions, donc ça n'est pas obligatoire et les conditions ne sont pas remplies. Est-ce qu'il faut vraiment une convention de la Constitution pour expliquer qu'on ne le fasse pas? Dernier élément, en 1936, le gouvernement Doumergue songe de façon très sérieuse à dissoudre le Parlement. Mais finalement, il ne le fera pas, notamment parce qu'il n'obtiendra pas l'autorisation du Sénat. Mais à ce moment-là, s'il y songe, c'est pas parce qu'il n'a pas le sentiment qu'il va violer une loi, même coutumière. S'il était sûr, s'il était établi par consensus que tout le monde, qu'il est impossible, que c'est interdit, que les gens qui font ça vont se faire exclure du Parti radical, comme Edgar Faure sous la 4e République, et je ne parle pas de sanctions plus sévères encore, la question ne serait pas évoquée. Or, elle est évoquée. Elle n'est pas possible, parce que le rapport des forces politiques ne le permet pas, mais elle est évoquée. Ça me semble exclure l'hypothèse. Bon. Donc moi, personnellement, mais ça n'engage que moi, je pense que cette histoire de constitution de la vie, qui d'ailleurs rend très difficile l'enseignement du droit constitutionnel en première année, parce que c'est la seule chose que retient des étudiants, et c'est une connerie. Bon. Cette histoire de constitution de la vie, à mon avis, est quand on creuse vraiment la chose, quand on la regarde vraiment en face, à mon avis, ça se dissout comme un mirage au fur et à mesure. Mais bon, c'est mon opinion, je comprends très bien que tu puisses avoir que moi et toute opinion inverse.
Alors, dans l'ordre des interventions, donc Denis Barranger.
Dans ta synthèse, tu disais qu'il y avait une option entre la thèse du consensus et puis la thèse décisionniste schmittienne. Et puis, très opportunément, à la fin, tu dis serait-il légitime d'en conclure que la possibilité même du décisionnisme reposerait en dernière analyse sur l'existence d'un consensus. Et je me rallie tout à fait à ce refus de l'option, à ce refus de choisir, parce que la question que je me pose parfois, c'est existe-t-il une règle de reconnaissance pour la décision schmittienne? Existe-t-il une grande norme à partir de laquelle nous pouvons valider quelque chose comme étant une décision et quelque chose comme ne l'étant pas? C'est un cercle logique éternel duquel on n'arrive pas à sortir. Il y a un meilleur connaisseur de Schmitt et de Weimar que moi autour de cet homme, mais Schmitt a fait ça exclusivement pour déroger à des modes de raisonnement courants parmi ses contemporains. Il a voulu faire quelque chose qui était extérieur à une normalité, à un ordre des choses. Utiliser le décisionnisme schmittien comme procédé courant d'identification de ce qui est du droit constitutionnel non écrit, je crains que ça n'aboutisse à la porie, je crains que ça n'aboutisse à quelque chose d'inutilisable. Et je dirais, pourquoi en est-il ainsi? Parce que, à mon avis, c'est pas le souverain qui décide de la situation d'exception ou l'interprète authentique qui décide du droit constitutionnel, c'est grosso modo le contraire. C'est la situation d'exception qui décide du souverain. C'est la situation, c'est les circonstances qui décident de l'interprète authentique. Donc une constitution, c'est aussi un moment, quand je parlais de paradigme tout à l'heure, je vais être obligé de leur dire, c'est pas joli, un schéma dans lequel, un dispositif dans lequel il y a un interprète authentique qui est donné. Et comment est-il donné? Ben ça, c'est pas absolument évident, et c'est beaucoup les circonstances, c'est beaucoup le contexte factuel. Le fait me dit qui va faire quoi dans le système constitutionnel et qui est un petit peu l'interprète authentique. C'est un peu le cas. Alors, j'entends ce que vous dites, Jean-Marie Danquin, sur la... Je parle comme sur France Culture, je vous appelle. Pardon.
Oui, 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 vous pouvez ajouter mon âge, si vous voulez, c'est encore plus l'amour.
Sur la constitution Grévy, mais on pourrait dire au fond que Grévy a reconnu un nouvel arrangement opératoire. Voilà, c'est son message inaugural, soumis avec déférence à la volonté nationale exprimée par ses représentants légitimes, voilà, patati, patata. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors d'abord, il a fallu qu'on reconnaisse celui qui reconnaissait, et que Marcel Prélot dise que c'était une constitution Grévy, on en est bien d'accord. Mais Grévy, on pourrait dire, il a œuvré en observateur. C'était quasiment une sorte de spectateur impartial. C'est-à-dire, il est celui qui était en situation de dire le dispositif opérationnel nouveau, Et vous avez raison de dire que le lendemain, il y aurait pu y avoir quelque chose qui remettait tout en cause et tout se casser la figure, mais Grévy a dit à peu près comment les choses fonctionnaient. Dans son article de 28, Capitan dit en quatre lignes exactement la constitution de 1875. On ne peut pas dissoudre, c'est les ministres qui gouvernent.
Si le singe de tour de feuille avait été schmittien.
Donc il y a dans le droit constitutionnel, et c'est ça un peu, à mon sens, le droit constitutionnel non écrit, des processus par lesquels le fait, la circonstance, sont un élément du normatif. Quand j'interprète la Constitution de 1875, je ne peux pas ne pas parler de la crise de 1877-1879. Je n'y arriverai pas à expliquer l'énoncé de Jules Grévy, à supposer qu'il y a un énoncé, sans expliquer un petit peu dans quel contexte on était. Le fait fait partie du dispositif d'interprétation de ce qu'on peut appeler la règle, peu importe le terme qu'on emploie. À peu près pareil en 1884. Les républicains sont en situation de dire que désormais on ne changera pas le caractère républicain de la Constitution et de la Constitution républicaine. À peu près pareil au fond en 62. Je prends des exemples qui sont dans le contexte. À peu près pareil en 62. C'est-à-dire au fond, De Gaulle, c'est l'homme de la situation. La situation redonne à l'homme la possibilité de prendre une décision, d'être la figuration du pouvoir. Moi, je pense beaucoup qu'une Constitution, c'est une figure du pouvoir. Qui se décline en des configurations du pouvoir. Ben, on a une figure du pouvoir qui nous est donnée par les circonstances. On a un auteur de la Constitution, c'est un homme qui a une légitimité historique et qui renouvelle cette légitimité historique par des événements politiques extrêmement contingents. Et au fond, à la limite, c'est un peu la situation aussi post-gaullienne qui nous a désigné le Conseil constitutionnel pour renouveler notre rapport aux libertés fondamentales qui était problématique. On n'y arrivait pas avec notre texte de 58 parce que manifestement le gaullisme historique était assez indifférent à la question des libertés fondamentales. Les circonstances, je pense absolument qu'il n'y a pas que 1960, vous allez voir combien c'est brillant. 1971, c'est après mai 68, c'est assez évident. Pas mal, hein. J'ai beaucoup réfléchi, l'été est passé. Il y a eu 1971 parce qu'on était dans le contexte de la société post-68 qui permettait un certain nombre de choses et qui brisait un certain nombre de rapports de pouvoir antécédents. Tout ça montre que le factuel entre dans la production normative dans des quantités qu'on n'est pas toujours assez disposé à reconnaître.
Monsieur Bouzard ?
Alors, en tant qu'historien, j'ai forcément une vision très empirique et avec une certaine incapacité à m'élever au niveau des débats qui ont eu lieu. Mais je voudrais peut-être un élément de réflexion. Le cas de la Constitution, qui est une tentative d'écriture de la Convention, la tentative d'écriture de la coutume, et qui reconnaît au droit antérieur, au droit préexistant à elle-même, une capacité d'ordonnancement de la société, d'ordonnancement des rapports politiques, des rapports sociaux, des rapports économiques. Précisément, j'ai en tête le cas que j'ai modestement un peu étudié, celui de la Constitution espagnole de 1812. Après, je peux peut-être développer plus loin sur l'histoire constitutionnelle espagnole, où précisément la tentative est d'écrire la Constitution en prétendant bien écrire la Convention constitutionnelle, écrire l'ordre constitutionnel, écrire les coutumes constitutionnelles. Et ça débouche sur quel type de situation ? Ça débouche sur un type de situation dans lequel les organes qui ne sont pas créés mais reconnus par la Constitution et auxquels la Constitution reconnaît des compétences, ces organes-là sont ceux qui ont, et il y a une multiplicité d'organes, ces organes sont les corporations, qui ont leur propre constitution. Ces organes d'abord déclarent si la constitution est, oui ou non, conforme à leur propre constitution, et ensuite, en vertu de leur propre constitution, appliquent la nouvelle constitution. Et le conflit qui apparaît, parce que précisément il y a un conflit sur l'interprétation de la Constitution et l'interprétation de ces conventions de la Constitution qui se retrouvent à chaque étape, à chaque niveau de l'application des normes et voire à chaque niveau on va dire, de ce qui donne la force aux normes, à savoir la publication de la norme, s'applique à chaque niveau ce conflit d'interprétation où effectivement, en définitive, les Cortés, en faisant la loi, ou en faisant la loi en vertu du pouvoir que lui donne la Constitution, ne fait qu'une prétention de faire la loi, qui ensuite sera reconnue en fonction de la capacité de tous les organes à admettre la fidélité de cette loi à la Constitution. Et en réalité, qui tranche le débat, ce sont les Cortes, à travers un système juridictionnel dans lequel ce sont les Cortes qui finalement tranchent sur l'interprétation de la Constitution. Alors, ceci, c'est le modèle juridique, c'est un modèle juridique qui s'applique, mais on est dans un moment de révolution, on est dans un moment de rupture des imaginaires sociaux et politiques, et en réalité, on en arrive à une Constitution qui ne s'applique pas, ou plutôt qui ne parvient jamais à aucun consensus. Or, cette absence de consensus dans l'histoire constitutionnelle espagnole, elle arrive jusqu'à la Constitution de 78. Parce qu'effectivement, on est dans l'incapacité de créer un consensus, de créer un rapport ou de créer un équilibre des pouvoirs par le biais de la Constitution. Et finalement, la seule solution à laquelle on parvient, c'est celle de faire la guerre civile. Parce que, précisément, la Constitution, le droit constitutionnel, ne permet pas de créer un équilibre des pouvoirs. Je crois que le meilleur exemple, ce sont les élections législatives sous la République espagnole, la Première République espagnole, où précisément le parti qui a la majorité relative, mais pas absolue, n'est même pas appelé à former le gouvernement. Et précisément parce qu'il n'est pas appelé à former le gouvernement, les gens de droite, précisément, cherchent une solution. Comment parvenir au pouvoir ? Alors que légitimement, la Constitution aurait dû permettre, ou ce qu'on pouvait comprendre par un système démocratique, aurait dû nous permettre d'arriver au pouvoir. Et on en arrive, je dirais, au consensus global de la Constitution de 78, et qui arrive à un certain nombre de blocages politiques espagnols, notamment en termes de redéfinition de la capacité des communautés autonomes, parce que, précisément, on est arrivé à un consensus qui est quasiment bloqué. On revient à la Constitution. On revient à cette Constitution qui, en fait, nie l'existence même de la capacité de discussion de ce qu'elle convient. Du coup, est-ce que c'est une Constitution qui peut produire ou qui, à partir de cette question d'équilibre des pouvoirs, peut arriver à rechanger cet équilibre, modifier cet équilibre, faire évoluer cet équilibre de façon progressive, lente ? L'histoire parlera, oui, d'une certaine façon, quand effectivement les communautés autonomes sont parvenues à changer leur système d'autonomie. Mais le système de changement des autonomies entraîne des statuts d'autonomie, c'est-à-dire finalement des constitutions autonomes de chacun des 17 communautés autonomes qui forment la monarchie espagnole actuelle. On en arrive à reposer la question de la constitution générale, et cette constitution générale qui finalement bloque d'une certaine façon l'évolution et même la formation d'un consensus. C'est-à-dire qu'on arrive systématiquement à chaque fois à l'évolution des conséquences de la Constitution, mais qui sont des évolutions constitutionnelles, qui finalement ne sont permises que parce qu'on ne veut pas changer la norme fondamentale, qui a été un consensus difficilement obtenu, et parce qu'on reste dans la crainte finalement d'une dissolution complète de l'État. Alors, je ne sais pas si je suis complètement hors sujet ou si je peux apporter quelque chose à travers cette petite contribution, mais c'est un petit peu ça, je voulais dire.
Il y a un cas de figure dans lequel la Constitution non seulement ne produit pas de consensus, mais au contraire, elle produit du dissensus.
Elle bloque un consensus à un moment donné, et précisément, elle bloque l'évolution. Elle bloque l'évolution du consensus, c'est-à-dire que le consensus est bloqué. On est quasiment, je dirais qu'on reviendrait à cette idée de constitution-ordre, qui à un moment donné a bloqué le consensus, et en réalité, on doit se réinterroger sur la nature du consensus et sur les raisons du consensus, et ce qui est opposé finalement à la remise en cause du consensus original, c'est finalement le problème direct de la survie de l'État. Si on remet en cause ce consensus, c'est l'État même qui est en cause, qui éclate.
Ceci dit que oui, effectivement, c'est très éclairant, M. Lisa, dans la mesure où on peut éventuellement faire un parallèle avec ce qui s'est passé sous la Troisième République, et quelque chose auquel j'avais avancé, et plus généralement pour les conventions de la Constitution. Pourquoi se développent des conventions ou une pratique constitutionnelle ? J'ai toujours aussi beaucoup de mal à employer le mot convention, mais une pratique constitutionnelle en marge du texte n'est pas du droit, parce qu'il a déjà été tellement compliqué se mettre d'accord pour arriver à produire une constitution, que c'est un équilibre extrêmement ténu, pointilleux, qu'il est préférable, en définitive, de laisser se développer des pratiques dont on sait qu'elles n'ont plus grand chose à voir avec le texte sensuel, mais dont on ne peut pas totalement dire qu'elles ne sont pas du droit, sauf à faire disparaître la notion même de droit constitutionnel. Mais c'est sans doute pour préserver des constructions laborieuses que peuvent se développer avec autant de vigueur le droit constitutionnel, parce que ce qui est frappant, c'est qu'on assiste dans la mutation du constitutionnalisme à deux phénomènes très paradoxaux. On a à la fois une sacralisation des droits constitutionnels et de la Constitution. On nous explique que la Constitution, c'est, n'est-ce pas, le summum du bien. On nous explique qu'on fait un contrôle préventif et même ensuite a posteriori de constitutionnalité pour permettre que la Constitution soit supérieure au traité, etc. Et dans un autre sens, il ne choque personne que dans l'organisation des pouvoirs publics, comme le dit le professeur Védivlec, on fasse tout autre chose que ce qui est prévu par la Constitution et que l'on nomme ça éventuellement convention ou pratique. Donc ça, c'est quelque chose de paradoxal. Et paradoxal qui s'explique sans doute parce qu'on ne veut pas remettre en cause une construction qui a été laborieuse. La meilleure preuve, c'est que le Conseil constitutionnel se prononce très volontiers sur la dignité humaine, sur les lois bioéthiques, sur l'indépendance des professeurs d'université, que l'on a fait récemment avec le succès qu'on fait, mais n'ira pas se prononcer, très peu en définitive, sur les questions de rapport de force entre le président de la République et le Premier ministre. Sans doute parce que il faudrait qu'il soit saisi. Sur ce sujet-là, il faudrait trouver une manière, mais il se garde bien de faire tout ça. Et si jamais il était saisi par un incident, par une question de non-incident, eh bien, on trouverait, comme l'a fait le commissaire Lubin dans le Conseil d'État, avec un succès ou une inventivité parfois relative, au contraire, très heureuse. On se souvient du commissaire Blanc Kessler qui avait ça en 1992, au sujet d'une autre décision. Il avait parlé également des conventions des constitutions. On trouvera toujours quelqu'un pour nous dire que finalement, c'est comme ça, et il sait très bien.
Et ce qui est frappant, c'est que dans son conclusion de son livre sur la Convention de la Constitution, Pierre Avril dit explicitement que ce décalage va se réduire. Que comme on a du droit écrit et que le Conseil constitutionnel fait triompher le droit écrit, la pratique politique va se normaliser. Et c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est exactement le contraire, parce qu'au point de vue de la normalisation des conduites politiques, ce que nous voyons aujourd'hui est bien pire que ce qu'on n'avait jamais vu avant. Donc, effectivement, il y a une divergence qui est vraiment stupéfiante de ce point de vue-là, et qu'il est de pas de bon ton de remarquer. Pas de bon ton de remarquer.
Donc en somme, on n'aurait pas besoin de recourir à la notion de droit constitutionnel non écrit pour rendre compte des pratiques de la Troisième République, de ce qui est plus ou moins improprement appelé la Constitution de Grévy, ni non plus de la Constitution du présidentialisme sous la Cinquième. Ce ne serait pas
c'est, en tout cas, inadéquat. En tout cas, je crois qu'il faudrait tester cette hypothèse. Voilà, c'est ça. C'est une hypothèse extrême, et il faudrait tester cette hypothèse. Et alors, j'entends bien que les acteurs peuvent dire, mais il y a une constitution qui ne s'appelle pas Grévy, puisqu'elle n'est pas une constitution. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on ne doit pas...
Par exemple, lors de la crise Mirand, en 1924, la gauche se lève comme un seul homme, se réclamant de quelque chose qu'elle considère comme ayant une valeur incontestable et qui fait que nécessairement le comportement migrant est scandaleux et qui doit partir. Ma question, c'est qu'est-ce que c'est
elle
ça ?
Elle le fait. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que dans cette affaire-là, elle le fait pour sanctionner quelque chose qui n'est nulle part interdit dans la Constitution.
Bon, absolument. Bon.
Donc là, elle crée la coutume en renversant le fait. En renversant le bon. Et ça, c'est effectivement... Mais d'un autre côté, ça relève aussi de l'initiative de l'agir constitutionnel, de la loi d'habilitation, enfin, de la marge de liberté. Et d'un autre côté, à mon avis, il ne suffit pas qu'on dise « c'est du droit, c'est du droit, c'est du droit », ce n'est pas ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, si la laïcité me permet de faire cette citation évangélique. C'est pas parce qu'on crie « le droit » qu'il y a effectivement du droit. Le droit, c'est aussi une manière... correct d'exprimer une prétention. Je me souviens du livre qu'avait fait Pierre, le politologue Pierre Favre sur la Constitution, sur la manifestation, et où il commençait en disant « Tout le monde me dit que la manifestation est une liberté constitutionnelle. Et à l'époque, ça n'était pas vrai, parce que le Conseil constitutionnel ne l'avait pas, etc., etc. Et tout le monde lui disait « la manifestation est un droit constitutionnel », ce qui était tout à fait significatif du fait que la manière politiquement correcte de dire quelque chose à ce moment-là, c'était de se réclamer de la Constitution. Donc là, ça, c'est une réalité qui existe, qui est une réalité psychosociale incontestable. Est-ce que c'est au sens technique du terme du droit? Ça, à mon avis, il y a un âge de discussion.
Donc, pardon, je vous donne la parole après. Si je suis bien votre raisonnement, enfin, dans quelle mesure vous seriez prêt à accepter, oui. Moi je considère pas, enfin, je considère dire que la constitution de Grévy serait du droit est, à mon avis, très problématique. Si ça avait été vraiment consensuel, peut-être, mais il me semble que ça n'a jamais été vraiment, en fait, même après 1914. Mais la réaction de la gauche lors de la crise migrant, c'est quoi? C'est alors du coup une prétention juridique ou une affirmation purement de pouvoir?
C'est une affirmation d'une norme politique d'un sens très général qui est que certaines choses ne se font pas. Certaines choses ne se font pas, et le fait que cette chose qui a été faite ait été interdite nulle part n'a pas d'importance. Il convient de faire savoir. C'est de la morale politique, comme dirait Denis Barranger.
Je crois aussi qu'il ne faut pas mélanger les choses. On ne peut pas dire que on est dans une question générale d'équilibre des pouvoirs, que cette moralité, c'est le principe général, mais qu'est-ce qu'on lui donne comme notion? Karin Malberg avait laissé entendre que c'était une convention fondatrice et qui irradiait tout le système. Pierre Avril a repris un peu cette idée-là. Même si on ne veut pas lui donner le nom de convention, parce qu'à mon avis, entre cette convention fondatrice et une convention interprétative d'une compétence juridique précise, ce n'est pas la même chose. Lui, il met le terme convention dans les deux cas, mais c'est l'idée, non pas qu'on viole du droit, on a un équilibre général qui est reconnu majoritairement comme étant l'équilibre. Alors, même si on ne veut pas l'appeler constitution Grévy, c'est la constitution à mettre entre guillemets, moi l'expression ne me choque pas, sauf que elle occulte du coup, elle fait comme si toute la période entre 1877 jusqu'en 40 était totalement homogène, ce qui n'est pas vrai. Il y a eu des débats sur le rôle du président du Conseil, sur les rapports avec sa majorité, etc. C'est simplement, c'était une certaine réduction du ciel constitutionnel qui excluait toute ouverture dualiste réelle et qui laissait le cabinet face à
ça. J'ai évoqué tout à l'heure brièvement le fait qu'Edgar Faure a été exclu du Parti radical après avoir dissous la Constitution. Alors, on ne peut pas lui reprocher d'avoir dissous l'Assemblée. On ne peut pas lui reprocher, c'était dans la Constitution. Il a appliqué la Constitution. Simplement, moralement, ça n'a été pas juste. Bon. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose de plus que le droit strict et à la limite, ou de moins. Enfin, qui est...
Plus qu'entre-temps, c'est pas la constitution gréfique, puisque précisément on a changé de constitution.
Oui,
donc ça relève des mœurs.
Ça relève de la vision qu'une certaine partie de la classe politique, qui est sur ce point divisé, considère comme étant hors limite. Mais alors ça peut créer du droit, mais à mon avis, c'est du droit à en devenir, c'est du droit potentiel, c'est du droit à la coyer.
D'accord. Alors, M. Buzal, vous venez d'intervenir, et Denis Barranger.
Juste une remarque, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à partir des prétentions des libéraux sous la Restauration, qui effectivement se fondent sur l'idée d'un système contractualiste entre la nation et le roi, qui n'est pas du tout dans la lettre de la charte, et qui, en définitive, quand le Charles X... utilise la charte contre l'esprit des libéraux, bon, ben, ça pète, et finalement, on leur donne raison dans un nouveau système. Mais en définitive, la convention ou l'évolution du système vers le parlementarisme telle qu'elle se dessine, qu'elle se décrit sous la Restauration, va trouver ses conséquences sous le régime suivant. Mais entre les deux, il y a la rupture, la rupture textuelle.
Oui, et on abroge l'article 14, ce qui est une manière de reconnaître qu'après tout, l'interprétation de Charles X était peut-être complètement
différente.
Voilà. Derrière la gêne que nous avons à délimiter précisément le périmètre du droit dans le phénomène constitutionnel, il y a aussi la transformation des idées régnantes en matière de ce que c'est que la morale, de définition de la morale.
les républicains de la Troisième République opéraient assez largement sur une conception qu'on pourrait dire vertueuse aristotélicienne de la moralité. La moralité, c'était des agirs, des habitus. On faisait comme ça et c'était bien de faire comme ça parce que c'était, comment dire, républicain. Quand mes éminents collègues disaient de manière très, je trouve, spirituelle qu'en 1958, les républicains n'ont rien eu à dire, sinon que c'était mal. Eh bien, aujourd'hui, les républicains n'ont rien à dire. Enfin, le Conseil constitutionnel n'a rien à dire du régime, sauf que c'est bien.
Oui. C'est-à-dire que la parce que le président de la République était le secrétaire.
La définie. Voilà, mais derrière ça, il y a une transformation des représentations ordinaires de la morale vers une morale démontique. C'est-à-dire que la morale est devenue la réalisation de la loi morale sur cette terre par des manifestations appropriées de volonté, peu important la réalité sous-jacente. Peu importe au fond qu'on ait probablement un quantum de liberté inférieur en France aujourd'hui qu'en 1971, l'important est que dans l'ordre du devoir-être, une meilleure organisation des symboles et des valeurs soit effectuée. Le mot moral, le sens du mot moral a beaucoup changé. J'étais très frappé. François Goguel, quand il commente les élections, le référendum de 62 dans la RFSP, cite encore une fois un propos très intéressant d'Alain qui dit que la grande conception constitutionnelle des Français, c'est qu'ils élisent comme députés les personnes qui auront le moins confiance envers l'exécutif. C'est-à-dire le député est le représentant de la méfiance, typiquement typique chez Alain, de la méfiance du citoyen vis-à-vis de ses gouvernants. Ce type de représentation morale extrêmement typique du républicanisme et qui fait le lien entre qui fait un certain lien entre le républicanisme français et le républicanisme classique, c'est qu'on se dévalorise complètement. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a une sorte de d'acceptation machiavélienne de la nocivité du pouvoir politique, comme si au fond on renonçait à empêcher qu'il soit mauvais. On renonce à ce que le pouvoir arrête le pouvoir, on renonce à ce que la disposition des choses nous préserve de certains usages nocifs du pouvoir constitutionnel. Je me demande si là-dedans, et c'est absolument pas une attaque idéologique que je fais là, c'est plutôt une sorte d'hypothèse d'histoire des représentations sociales, si le marxisme n'a pas son rôle. C'est-à-dire si au fond, quand on dit tout ça, c'est de la superstructure.
Le pouvoir
se déchaîne et on ne peut pas attendre de lui qu'il soit gouverné par le droit parce que le droit n'est que de la superstructure qui ne veut rien dire en lui-même, c'est fini quand même par travailler dans les cerveaux, même dans ceux les plus conservateurs, et ça laisse un peu plus libre cours à laisser le déchaînement du pouvoir se faire sans moindre contrôle. Et au fond, il y a en 1958 un contrat implicite très fort entre le pouvoir gaullien qui veut être un pouvoir et qui ne veut pas qu'on contrôle, et les autorités juridictionnelles, et spécialement la juridiction administrative, qui trouvent que tout ça est extrêmement bien et qu'on va retransformer le dispositif normatif pour le perfectionner.
Avec Alain, quand même.
Ouais, mais on peut toujours dire ça, mais au fond, je pense que ça ne change rien au fait qu'il y a eu une sorte d'arrangement entre les forces politiques qu'on a. On a laissé un certain pouvoir politique s'exprimer, on l'a pas regardé de trop près. Et de son côté, le pouvoir juridictionnel, une certaine forme du pouvoir juridictionnel en France, a repris en main, a continué la jurisprudence administrative de la Troisième République sous d'autres formes. Enfin, c'est un peu un autre débat.
Simplement une dernière chose. J'ai cité Edgar Faure, mais je pouvais citer MacMahon. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous écrivent des articles, des textes qui s'appellent le coup d'État du 16 mai. Enfin, le coup d'État du 16 mai, c'était appliquer la Constitution. Bon. Donc là, il y a une sorte d'application rétroactive de la Constitution gréviste, qui prouve bien qu'il y a un découplage complet de ce que nous appelons aujourd'hui droit constitutionnel, c'est-à-dire le texte constitutionnel, et de ce qui convient ou ne convient pas de faire. C'est autre chose, ça fonctionne dans un autre espace. Grévy a violé des valeurs supérieures en appliquant la Constitution, Millerand aussi, et Edgar Faure aussi.
Et inversement, quand Jacques Chirac décide qu'une loi promulguée ne va pas être appliquée, c'est pas appelé à un coup d'État par qui que ce soit, sauf une minorité de la
doctrine. Oui, c'est une chose absolument naturelle.
Ça, voilà, c'est...
Et quand le président de la République fait la loi, c'est absolument naturel. C'est la séparation des pouvoirs. Car n'oublions pas quand même que la séparation des pouvoirs interdit à une commission d'enquête d'auditionner la première réponse du chef de l'État, sa seconde exactement, sa première en tant que chef d'État, mais qu'elle n'interdit pas au chef d'État de faire la loi. Bon, ça, c'est tout de même très, 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 très surprenant. Et si, heureusement pour le Conseil constitutionnel, qui n'a pas à l'expliquer, parce que là, il aurait quand même du mal. Enfin, il arriverait. Jean-Louis Debray vous ferait ça très bien.
Et alors, qu'est-ce qui fait que ça reste en dehors de la sphère du droit? Est-ce que, alors vous dites c'est pas la même chose, mais si ça avait été finalement consensuellement reconnu, si l'effacement du chef de l'État était devenu quelque chose d'universellement accepté dans le déroulement de l'histoire constitutionnelle française, est-ce qu'on pourrait dire que ce serait devenu du droit, ou est-ce que ça ne le serait toujours pas?
Ah, écoutez, ça c'est un problème de futur contingent que seul Dieu, à mon avis, pourrait trancher.
Je ne sais pas si c'est devenu du droit, mais ça sert en tout cas à trancher des points de droit. Prendre un exemple qui m'a frappé et que je connais pas mal, et qui est passé inaperçu, c'était un avis du Conseil d'État contentieux qui s'appelle Hoffmann, Madame Hoffmann-Gleman de février 2009, sur lequel le Conseil d'État a statué au point de savoir si l'État était responsable ou pas des actes de déportation commis pendant la Seconde Guerre mondiale, précisément par l'État français. Et dans, vous savez, qu'il a été considéré que les régimes légaux et réglementaires d'indemnisation ayant été adoptés, que tout ce qui devait être indemnisé en somme d'argent avait été indemnisé. Mais que ce qui avait mis fin à tout le problème, c'était pas une loi, en tout cas il y avait plus fort qu'une loi, il y avait la déclaration du président de la République en juillet 1995, et que cette déclaration-là engageait la France, engageait l'État français. Et c'était une déclaration morale que, vu l'immensité des préjudices, on ne pouvait pas indemniser autrement que comme ça, mais ce qui est frappant, c'est de considérer qu'une déclaration du président de la République faite pendant un discours est un acte qui engage l'État, la volonté de l'État, au sens d'une loi qui dit que la loi de l'État est telle chose votée par le Parlement. Et ce fait-là, dans les commentaires de la décision, est passé totalement inaperçu. Or, c'était quand même quelque chose d'absolument inouï, parce que le commissaire du gouvernement à l'époque, les magistrats qui ont décidé ces décisions, n'ont absolument pas tiqué sur cette affaire-là. Ça leur a semblé absolument naturel. Et sans doute aussi parce qu'ils considèrent que le président de la République était le suffrage universel et que donc, etc., on connaît le mécanisme.
Et dans la fameuse circulaire qui a eu tellement de succès à l'international internationale, faite par le ministre de l'Intérieur, le discours du président de la République est explicitement cité. Ça, c'est une chose qu'on a moins dite après avoir vu un certain nombre. Mais quand on l'a cité au départ, on a dit que la circulaire disait, comme l'a dit le président de la République dans son discours, il faut virer les Roms, etc.
C'est pour des raisons de communication, pas pour des raisons de juridique. Parce que,
ah non, pour des raisons de juridique.
L'idée qu'une déclaration du président de la République puisse engager la volonté de l'État et du gouvernement, ça, c'est pas discuté. Simplement, on pouvait pas le sortir parce que ça faisait mal dans le tableau.
Bien, je crois que nous pouvons désormais prononcer la clôture des débats. Je ne sais pas dans quelle mesure on a avancé, mais en tout état de cause, on a débattu. J'ai un petit peu une difficulté personnellement parce qu'au fond, je n'arrive pas bien à saisir la nature du désaccord. C'est ça qui me pose un peu de problème. Mais c'est sans doute aussi parce que je ne me suis pas limité à un rôle de simple président de séance, mais que j'en ai fait un peu plus, et que donc c'est plus compliqué de gérer le rôle à la fois de quelqu'un qui dit des choses dans le débat et de quelqu'un
et
qui essaie
formalise
de gérer
tes positions par un papier.
Mais voilà, j'ai un peu de mal parce que au fond, j'arrive toujours pas vraiment à comprendre ce qui fait qu'on est en désaccord. Merci en tout cas à tous.